SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
Mesdames, Messieurs, votre journal des sports de ce mardi 19 juillet 2022. On commence avec du football et l'Euro féminin. Déjà qualifiées pour les quarts de finale, les Françaises ont concédé le nul face à l'Islande, un but partout. Les Bleus ont ouvert le score dès la 9e minute, mais se sont fait rattraper au bout du temps additionnel à la 100e minute avec un but sur pénalty des Islandaises. Les Bleus restent malgré tout premières de leur poule. Objectif quart de finale, on écoute la sélectionneuse de l'équipe de France, Corinne Diacre.
Je pense qu'on a vu une belle équipe de France qui s'est un peu plus lâchée en deuxième mi-temps. Je trouvais qu'on avait un visage un peu meilleur, surtout un petit peu plus de justesse technique en deuxième période. On avait souhaité concerner tout le monde et donner du temps de jeu à un maximum de joueuses. Très sincèrement, les filles ont répondu présentes, elles ont fait les efforts. Tout le monde a marqué des points, les filles ont fait les efforts ce soir. C'était difficile, la première période il faisait vraiment très chaud. On sait ce que l'on veut faire en quart de finale.
Le quart de finale, ça sera samedi face aux joueuses du Pays-Bas, tenantes du titre. Football toujours et la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations féminine qui se poursuit. En finale, dimanche prochain, les Marocaines affronteront les Sud-Africaines. C'est la première fois que les Marocaines vont aussi loin dans la compétition. Et la veille, samedi, c'est le match pour la 3e place qui se jouera, Nigeria contre Zambie. Le Cameroun, lui, éliminé en quart de finale, termine sur une bonne note, puisque en battant le Botswana 1-0 en match de classement, eh bien, les Camerounaises gagnent le droit de disputer un futur tournoi de qualification pour le mondial. Hugo Moissonnier.
L'hymne camerounais en Coupe du Monde, c'est encore possible. Juste avant la pause, la vedette et capitaine d'un soir, Adjaran Joya, pivote et trompe de loin la gardienne du Botswana, but magnifique. Le Cameroun est repêché. Grâce à son succès du soir, il disputera au moins un tournoi de qualification pour la grand-messe.
Nothing's bigger than the World Cup.
Nous voulions gagner la CAN, mais rien ne dépasse la Coupe du Monde. C'était notre objectif principal, peine à expliquer Estelle Johnson, la défenseuse qui a manifestement retrouvé le sourire.
Of course we wanted.
Un sentiment mitigé.
Plus de gravité dans la bouche du sélectionneur Gabriel Szabo.
Soulagé un peu, il faut garder la flamme parce que la place du Cameroun c'est en Coupe du Monde.
Mais lui non plus n'est pas abattu.
Bon maintenant, est-ce que nous méritions pas mieux? Nous n'avons pas eu de baraka. Nous sommes en train de rebâtir une équipe. Faire un petit dosage entre les anciennes et les nouvelles. C'est une équipe qui a de l'avenir, une très belle équipe qui va être sur la durée.
On en vient ensuite des championnats du monde d'athlétisme à Eugene aux États-Unis. L'ivoirienne Marie-Josée Talou rate le podium en finale du 100 mètres. Sofia Namazian avec les relances de Radio France Internationale.
Déception pour la sprinteuse de 33 ans qui boucle pourtant la distance en 10 secondes 93, mais c'est allé très vite, trop vite devant elle, à l'image du trio jamaïcain qui prend les trois premières places de la finale. Médaille d'or pour l'inusable Shelly-Ann Fraser-Pryce, sa 5e couronne mondiale.
Déception également pour l'Algérien Abdelmalik Laoulou en demi du 400 mètres haies.
Éliminé après sa 5e place en 48 secondes 90 centièmes, trop loin de son record pour espérer une finale comme en 2019. Déçu, il promet de se remettre au travail pour l'année prochaine.
Aujourd'hui, je suis déçu parce que j'étais prêt pour être dans la finale. J'étais dans ma tête, même si c'est quatrième, peut-être que je vais passer avec les deux meilleurs chronos. Mais malheureusement, dans la course, j'étais cinquième. Du coup, c'est pas possible d'être en finale. Vu 2019, j'étais finaliste. Aujourd'hui, vraiment, je suis déçu. Mais Je vais essayer mon possible, comme toujours, d'être au top. Je suis qualifié au championnat du monde l'année prochaine. Je vais essayer de travailler encore plus pour réaliser un bon chrono et faire quelque chose de bien.
Les propos recueillis par Olivier Pron. À noter tout de même 7 médailles d'or pour l'Ougandais Joshua Cheptegei, vainqueur du 10 000 mètres.
Allez, on poursuit avec le Tour de France et journée de repos. Hier, le Belge Jasper Philipsen a remporté la 15e étape dimanche avec un départ à Rodez et une arrivée à Carcassonne. Philipsen qui décroche ainsi son premier succès sur le Tour, suivi par son compatriote Van Aert. La veille, la 14e étape de la Grande Boucle a vu l'Australie briller. Michael Matthews s'est imposé en solitaire au sommet de la côte Laurent Jalabert devant Alberto Bettiol et le Français Thibaut Pinot. On écoute l'émotion de l'Australie. Australian Michael Matthews.
I think it's pretty much the story of my career. Had so many roller coasters up and down, but my wife, my daughter, they kept believing in me. And how many times I've been smashed down to all the time get back up. This was for my daughter today. She's 4 years old, and I really just wanted to show her the time I'm away all the time. Is to show her what I do it for. And today was that day.
Michael Matthews de l'équipe Bike Exchange, gagnant de la 14e étape. Donc, on écoute la fierté du directeur sportif Bike Exchange, Matt White.
Today was very, very special on a few fronts. Firstly, things didn't go as planned yesterday. So we had to turn things around, and we turned things around quickly. What does it mean to win our second win after so many places? I think for Bling, it's the most impressive ride of his career. He has changed over the years. He's a different rider than he was when he was with us 4 or 5 years ago. But what he has become is become a lot more robust, and his ability to climb has obviously improved. And he's still got that snap there, and he had some close run-ins there with Wout van Aert early in the race, and to get that monkey off his back and to take the most impressive win of his career, third time trying, we are all very, very proud of him, and we are not content. We're going to keep moving on and aiming for victories from now all the way to Paris.
Les coureurs de la Grande Boucle s'élanceront ce soir pour la 16e étape entre Carcassonne et Foix. 179 km qui feront office d'avant-goût avant les grandes étapes pyrénéennes. Dernière semaine qui commence donc et les favoris jouent leur va-tout. Je vous propose d'écouter l'analyse de notre collègue Christophe Mallet. Il est en France, il suit le Tour de France pour SBS, interrogé comme chaque semaine par Thomas Mercier.
Et ça fait déjà plusieurs semaines que le Tour de France parcourt les routes européennes et françaises. On retrouve Christophe Mallet. Bonjour Christophe.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Alors on est bientôt proche de l'arrivée, proche des Champs-Élysées. Qu'est-ce qui se passe en ce moment au Tour de France? Faites-nous un résumé.
Alors oui, c'est la dernière ligne droite, hein, parce que le Tour de France finit en cette fin de semaine, dimanche, avec l'étape de procession. Comme on peut dire, l'étape de Paris. Donc vraiment, il reste que quelques jours pour faire la différence. Et il se passe énormément de choses. On a vraiment une bataille au niveau du classement général avec un Jonas Vingegaard, donc le Danois, qui est en tête avec une trentaine de secondes. Une quarantaine de secondes d'avance sur Tadej Pogacar. Et Tadej Pogacar, c'est le double vainqueur du Tour de France, donc les deux dernières éditions. Et c'est surtout un battant ultime. Il va se battre jusqu'à la dernière minute. Donc ce qu'on sait, c'est qu'en fait, on va avoir un spectacle incroyable sur les prochaines journées. Faut vraiment pas, à mon avis, rater cette dernière semaine du Tour de France, parce que ça va être un spectacle juste, oui, incroyable, parce que ça va se batailler à l'avant. Et là, on sent vraiment un rapport de force ultime entre les deux équipes, la Jumbo-Visma et l'équipe UAE, donc de Tadej Pogacar. C'est plus qu'un combat d'hommes, c'est vraiment un combat d'équipe qui va se jouer. Et il y a toutes les Pyrénées qui restent encore à passer, donc ça va être juste... Voilà, j'ai pas d'autre mot qu'incroyable, Thomas. Je suis désolé, mais c'est incroyable.
Ah oui, c'est clair que le plus beau est encore à venir avec les étapes dans les Pyrénées. La chaleur, en plus, qui est complètement étouffante et écrasante en ce moment en France. Et d'ailleurs, de ce côté-là, comment ça se passe avant de faire le point sur les Français, les Australiens au niveau des classements? Comment les coureurs gèrent aujourd'hui la chaleur?
Bah un peu comme nous en fait, hein, la chaleur c'est vraiment la grosse question de la semaine, je serais tenté de dire, et c'est vrai que à Carcassonne par exemple sur la dernière étape il a fait 41 degrés et avec un taux d'humidité de fou. Donc en fait c'est vraiment une spécificité du Tour de France et de ce sport, le cyclisme, c'est qu'en fait le cyclisme ça s'arrête pas, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige, c'est assez rare qu'on arrête des étapes de vélo. Et donc pour le Tour de France c'est pareil, on n'arrête pas le cyclisme, on n'arrête pas le Tour de France même s'il fait 41 degrés. Alors c'est moins plaisant je pense pour les coureurs, c'est aussi moins plaisant pour nous, mais les coureurs s'adaptent. Le gros problème d'un coureur cycliste avec cette chaleur, c'est la nutrition, parce qu'en fait vous le savez, hein, comme tout le monde je pense, quand il fait chaud on a juste moins envie de manger, et sur le vélo la nutrition c'est primordial, sans nutrition on n'avance pas, et donc ça c'est compliqué pour les coureurs de continuer à s'hydrater, à manger tout en pédalant sous une chaleur accablante d'une quarantaine de degrés. Donc ça c'est la grosse question des deux trois prochains jours, mais on sait aussi que la chaleur va s'atténuer vers le milieu de la semaine quand on va se diriger vers les Pyrénées. Justement il y a même des questions de pluie, on parle de pluie assez forte dans la semaine. Donc voilà, ils auront à peu près tout eu. Et si je peux juste faire un point sur les étapes à venir, il y a une étape mythique, l'étape d'Otacam, avec cette montée mythique d'Otacam. Si vous êtes un fou du Tour de France, vous savez que c'est une étape et une montée qui est juste incroyable, encore une fois, dans le sens où elle a vraiment une histoire attachée à cette montagne, et d'ailleurs une histoire avec des Français. Donc ça peut être vraiment une... S'il y a une étape à regarder cette semaine, ce sera l'étape d'Otacam.
Merci beaucoup, Christophe. Et concernant le classement des Français, on en est où pour le moment?
On n'en parle pas des Français aujourd'hui.
Okay. On passe à autre chose. Les Australiens.
C'est pas le meilleur tour pour les Français. Il y a David Godu et Romain Bardet qui sont dans le top 10. C'est des belles performances, mais c'est vrai qu'il y a jusque-là pas de victoire d'étape de Français. C'est même presque possible qu'il n'y ait aucune victoire d'étape de Français sur ce Tour de France, qui est rare, parce qu'il y a toujours au moins une ou deux, un ou deux éclats de combativité avec des victoires françaises. Mais là, on regarde vraiment une forte possibilité qu'il n'y ait pas de victoire française sur ce Tour de France. On le savait, Julien Alaphilippe n'est pas là. C'est tout de suite un peu moins flamboyant quand Julien Alaphilippe n'est pas là. Et c'est intéressant justement d'analyser ça en termes des Français. Après, vous m'avez demandé par rapport aux Australiens, c'est un meilleur tour pour les Australiens. Alors, on en est à deux victoires donc pour les Australiens. Il y avait eu la première victoire de Simon Clarke qui avait gagné de très très belle manière, on en avait parlé. Malheureusement, Simon Clarke a eu le Covid et donc il a dû se retirer de ce Tour de France. Et puis, il y a quelques jours, en fin de semaine dernière, il y a eu la super victoire de Michael Matthews de l'équipe Bike Action GECO qui a gagné après 4 ans sans victoire, et 2 ans dans cette nouvelle équipe. C'était un retour aux sources, un retour à ses débuts. C'était un peu controversé d'ailleurs, ce retour dans l'équipe Bike Exchange GECO, et donc du coup là il a eu deux deuxièmes places sur le Tour de France, et il a réussi à gagner vraiment, et à la force des nerfs, à la force des jambes, une très 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 belle victoire. Donc deux victoires pour les Australiens, et surtout il y a possibilité d'en avoir une troisième avec Caleb Ewan qui est toujours là. Caleb Ewan, il est en galère totale, il est avant-dernier du Tour de France.
Oui,
il est à je ne sais plus combien, 5 heures ou 6 heures de retard du leader, mais il serre les dents parce que son objectif, lui, c'est pas de gagner des étapes forcément tout le temps, parce que c'est un sprinter, il y en a que très peu des étapes de sprint, mais c'est de gagner à Paris, parce que gagner à Paris quand on est un sprinter, c'est un peu comme gagner la Coupe du Monde. Quand on gagne sur les Champs-Élysées, c'est la victoire la plus glorieuse qu'on peut avoir. Il y a rien qui est aussi beau qu'une victoire comme ça quand on est sprinter. Donc l'objectif pour Caleb Ewan, c'est Paris, et donc ça ferait potentiellement une troisième victoire australienne au Tour de France. Et je pense qu'à partir de 3 victoires, on peut dire que c'est un beau tour pour les Australiens.
Clairement, c'est un magnifique tour avec des conditions qui sont assez exceptionnelles. Merci beaucoup, Christophe. On a une chance de vous avoir avant les Champs-Élysées?
Bon, on verra, on essaiera.
On essaiera. D'accord.
Non, normalement, ça devrait aller. On essaiera, c'est sûr. Ce qui est compliqué pour nous, c'est les transferts, parce qu'on fait beaucoup de voitures. Je vais vous donner un petit secret. On est au milieu de la deuxième semaine, il nous reste une semaine. Et on a fait presque 7000 km de voiture, après 9000 km de voiture. Oui, c'est pas une erreur, 9000 km de voiture. Donc on parlera un jour de l'empreinte carbone de tout ça, mais c'est une autre question.
9000 km en quelques semaines seulement, c'est une belle performance. Merci beaucoup, Christophe. On se retrouve très vite pour faire un nouveau point sur le Tour de France sur SBS, le programme en français. Merci, Christophe.
Merci, Thomas.
Voilà, messieurs, dames, merci d'avoir écouté le journal des sports du mardi 19 juillet 2022.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.